Mirasa Mirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. À la présentation, Joséphine Johnson-Gondeman.
Suivez les émissions de la radio Indamba en direct sur le www.indamba.org.
Ouvrons cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine par cette arrestation de 3 militants du CNL qui ont été interpellés et extradés par la police tanzanienne. Ces 3 militants de la même famille ont été arrêtés par la police tanzanienne le 15 mars dans le secteur de Gitanga en province Kigoma où ils avaient trouvé refuge depuis le mois d'août de l'année passée. Le point avec Raoul Ngorose.
Jean Bosco, Sengiyumva, Oscar Ndachaïsavier, Eric Nibizi sont ces militants du CNL interpellés sur le sol tanzanien. Au début, ils ont été gardés au cachot de la police Makerere en Tanzanie avant d'être extradés par la police tanzanienne ce vendredi le 18 mars. Selon une source au sein de la police au commissariat communal de la police de Rutana, ils ont été arrêtés sur demande des autorités administratives et policières de Rutana. Les 3 militants du CNL originaires de la commune Giharo dans la province de Rutana avaient fui en août 2021 après une embuscade tendue contre par des jeunes Imbonerakure dans la nuit du 11 août 2021. Au lendemain de cette embuscade, 2 autres militants du CNL ont été arrêtés. Il s'agit de Jean-Pierre Ndachaïsava, responsable du CNL en commune Giharo, et son frère Chartier Nakirutimana. Tous, ils totalisent un effectif de 5 militants du CNL d'une même famille arrêtés en commune Giharo de la province de Rutana. Ces 2 frères ont été condamnés par la cour d'appel à Makamba à 10 ans d'emprisonnement et une amende de 5000 francs burundais chacun. Ils sont accusés de tentative préméditée d'assassinat. Le verdict est tombé le 24 février dernier. Cette condamnation a été émaillée de plusieurs irrégularités dès l'instruction du dossier selon les magistrats du tribunal de grande instance de Rutana. La radio Inzamba n'a pas encore trouvé par téléphone le gouverneur de la province Rutana pour connaître les motifs de cette arrestation de ces militants du CNL en Tanzanie.
En politique, les administratifs et les responsables du parti au pouvoir doivent collaborer étroitement. L'ordre émane du président de l'Assemblée nationale, Gelaz Ndavirabe, et l'a dit à Kirundo le lundi alors qu'il rencontrait les administratifs de cette province. Celui qui ne veut pas de cette collaboration n'a que rendre son tablier. Suivez l'extrait de son discours.
Le gouverneur de province est le responsable du parti qui a gagné les élections. Les 2 personnalités ont le devoir et l'obligation de tenir le même langage. Ils doivent collaborer pour construire les provinces et vous devez les respecter. Ils sont les du président de la République, ils sont aussi les du secrétaire général du parti qui a gagné les élections. C'est le parti qui donne la ligne directrice. C'est ce parti qui envoie au gouvernement les projets pour exécution. Je vous le dis, ce qui se passe au niveau de la province doit être le même cas pour la commune, tout comme si la colline, parce que vous tous, vous dépendez de 2 personnalités que je viens de citer. Si tu te sens lésé, tu n'as qu'à partir chercher ailleurs.
Les propos de Gelaz Daniel Ndavirabe montrent que le CNDD-FDD veut imposer le parti unique. C'est ce qu'indique Emery Pacifique Guilaneza, président du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Pour lui, les conséquences sont nombreuses, entre autres la résignation des administratifs face aux ordres du parti au lieu d'accomplir leur cahier de charges conformément au mandat public. Suivez Emery Pacifique Guilaneza.
Les gouvernants se comportent comme si le pays est toujours dans le système d'un parti unique. Le Burundi a quitté ce système il y a bien d'années. Maintenant, nous vivons le multipartisme. Mais la réalité, c'est que ceux qui dirigent le pays veulent nous forcer à être dans un parti unique. Ce que ce leader a dit au gouverneur est vraiment très déplorable parce que quand vous suggérez que le gouverneur ne peut pas gouverner sans consulter celui qui dirige ou qui représente le parti au pouvoir dans une province. Ça veut dire que tu es en train de forcer tout le monde à adhérer au seul parti qui est au pouvoir. Ça veut dire que le gouverneur ne peut pas prendre des décisions qui sont des décisions qu'il juge nécessaires pour sa province sans toutefois recevoir des ordres de celui qui représente le parti au pouvoir dans une telle province. Ça a des conséquences énormes parce que ça force tout le monde à adhérer ou sinon à ne pas recevoir les services publics. L'administration, quand il y a l'ingérence du parti au pouvoir dans l'administration, c'est toujours des conséquences directes au gouverné. Si alors, je ne doute pas que même dans cette province ou dans d'autres provinces, il y a des gens qui sont malmenés, maltraités parce qu'ils ne sont pas, en tout cas, des adhérents du parti au pouvoir. Et comme je l'ai dit, le gouverné aussi aura peur parce que c'est comme s'il travaillera sous contrôle, que si tu ne fais pas ce que nous voulons, nous, alors on va te changer ou on va prendre des décisions contre toi.
Suivez les émissions de la radio Indamba en direct sur le www.indamba.org.
Au chapitre de la coopération, un don de carburant d'une valeur de 400 millions de yens, soit 3,4 millions de dollars, a été accordé au gouvernement du Burundi par le Japon. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale, Albert Shingiro, a indiqué que ce don sera vendu pour pouvoir financer le projet du gouvernement. Écoutez le ministre Albert Shingiro.
Nous entretenons des relations très nourries et en bonne santé avec le Japon depuis pratiquement les années 1970. Et depuis cette année-là, le Japon a déjà fourni plusieurs appuis qui équivalent à peu près à 300 millions de dollars américains. Aujourd'hui, nous venons de signer bien sûr une convention de dons d'une valeur de 400 millions de yens. En dollars américains, c'est 3,45 millions de dollars américains. Ce sera sous forme de dons de carburant. Le gouvernement du Burundi se chargera bien sûr de vendre ce don. Les moyens récoltés à partir de ce don vont être utilisés pour financer des projets de développement qui cadrent bien avec le programme national de développement du Burundi ainsi que les orientations du chef de l'État qui ne cesse de nous donner régulièrement.
Selon Gabriel Ossili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, au LUCOM, dont devra plutôt servir à la constitution du stock stratégique du carburant dont le pays a tant besoin au lieu d'être vendu. Suivez Gabriel Ossili, président de l'UCOM.
Nous pensons que la bonne gestion doit être de mise, mais deuxièmement, on ne voit pas comment le gouvernement décide de vendre le carburant au privé au lieu de constituer le stock stratégique parce que nous avons un problème de carburant, d'approvisionnement. Vous voyez même quand le gouvernement décide de revoir à la hausse les prix à la pompe, le carburant reste problématique. Un autre problème, c'est que le parc pétrolier de Gitega, qui appartient au gouvernement, a été donné à Interpétrole. Malheureusement, le gouvernement n'a aucun stock stratégique actuellement, c'est-à-dire s'il y a pénurie, le gouvernement ne peut pas avoir de carburant pour approvisionner les stations. Donc, tous les pays fonctionnent comme ça, ils doivent avoir des réserves, et on ne comprend pas pourquoi les choses ne changent pas. Nous demandons à ce qu'il y ait retrait à Interpétrole de son stock stratégique pour que le gouvernement puisse avoir ce stock stratégique parce que c'est extrêmement important pour le pays.
Au chapitre de l'environnement, les habitants des collines de toute la province de Bururi sont appelés à cultiver toutes les collines qui servaient de pâturage des vaches avant la stabulation de ces derniers et de couper les eucalyptus pour planter les autres arbres qui consomment moins d'eau que les eucalyptus. Au cas contraire, ces propriétés seront données à ceux qui pourront les exploiter. Le suivi de la mise en application de cette mesure est prévu à partir du 1er juin de cette année. Le temps de cette mesure a été donné par le président de la République en province de Lomongue, compte tenu dans le discours qu'il a prononcé lors de la célébration de la journée internationale dédiée à la femme. Plus de détails avec Georges Nimenya.
Dans un communiqué du gouverneur de la province de Ururi, le colonel Jondas Ndenzamaso, alias Kirenge, exige à toute la population de sa province de labourer toutes les collines pour creuser des courbes de niveau. Au contraire, il sera exproprié de leurs propriétés pour les donner aux autres qui seront en mesure de les exploiter. Il a dit également qu'il faut couper les eucalyptus pour les remplacer à d'autres arbres qui consomment moins de l'eau. Ici, il a fait une précision que ceux qui sont chargés de l'agriculture et de l'élevage dans cette province les guideront pour bien appliquer la mesure. La mesure du gouvernement vient dans le même ordre d'idée déjà annoncée par le président de la République lors de sa dernière descente en province de Lumongue, car il avait rehaussé de sa présence dans les cérémonies de la Journée internationale des droits de la femme.
Dans la région de Mugamba, il faut labourer toutes les collines couvertes par des herbes. Les eucalyptus ne sont là que pour consommer plus d'eau. Planter des arbres qui ne sont pas nocifs aux autres cultures et transformer ces herbes en des légumes ou autres cultures comestibles. Il y a ceux qui, quand je parle de l'eucalyptus, n'y voient que d'argent. Ils m'ont même dit que c'est la seule culture vivrière qu'ils ont. Ce sont les mauvais esprits qui les possèdent. La récolte de l'eucalyptus se fait combien de fois? Après combien de temps? Je vous conseille d'enlever l'eucalyptus et de planter les autres cultures, comme la pomme de terre. Après la pomme de terre, cultivez le soja. Après le soja, la patate douce. Et après la patate douce, cultivez le maïs. Et vous reviendrez me dire que vous gagnez plus. Avec l'eucalyptus, vous aurez gagné 4 fois plus.
Evette Benchimier a martelé que ceux qui font la culture de l'eucalyptus ne sont pas des fainéants, ne sont que des fainéants qui ne veulent pas exploiter les terres qui sont mises à leur disposition.
Toutes ces personnes qui font la culture de l'eucalyptus ne sont que des fainéants qui ne veulent pas mettre en valeur leurs propriétés alors que Dieu nous les a donnés pour les exploiter. Protéger le sol, c'est tracer les courbes de niveau. Notre objectif, c'est de permettre à l'eau d'infiltrer le sol avant d'atteindre la nappe phréatique, les rivières et les ruisseaux pour permettre à la terre arable de rester toujours humide.
La mesure du gouverneur de province à Ururi, le colonel Ndas Ndenzamaso, alias Kirenge, sa mise en application sera évaluée pour le 1er juin prochain.
Le gouvernement CNDD-FDD ne ménage aucun effort pour mettre en application une politique d'appauvrissement de la population burundaise. C'est le contenu de la déclaration du parti UPRONAL de l'opposition rendue publique le jeudi 24 mars. Charles Nditije, président de ce parti, dénonce des mesures qu'il qualifie d'incohérentes prises par certains hauts cadres de l'État. La récente mesure délimitant les zones d'accès pour les conducteurs de motos, vélo et tricycle dans la ville de Bujumbura et la mesure obligeant la population de la province de Bururi à arracher tous les eucalyptus en sont des exemples illustratifs selon Charles Nditije.
Nous constatons qu'il s'attaque maintenant aux droits économiques et sociaux. Tout récemment, vous avez constaté l'interdiction des motos, des tricycles et des vélos de circuler à la ville de Bujumbura et probablement ailleurs aussi à Gitega prochainement. Et puis, vous avez constaté également la démolition des parcelles, des kiosques, des boutiques en mairie de Bujumbura. Aujourd'hui, le CNDD-FDD vient de prendre d'autres mesures particulièrement dans la province de Bururi en demandant aux agriculteurs éleveurs d'abord de cultiver les fonds et tous les fonds là où il y avait des herbes qui nourrissaient le cheptel, de couper les eucalyptus, également de tracer des courbes de niveau anti-érosie. Tout cela en l'espace de 2 mois. Il n'y aura plus de paddock pour les troupeaux de vaches, de chèvres et autres. Et puis, en coupant les eucalyptus, ce sont des sources de revenus qui leur sont amputées parce que pour les ménages, pour la construction des maisons, même des ponts, même des pylônes pour l'électricité. Donc, c'est un manque à gagner pour les familles, mais également pour la population et même pour le pays parce que en liquidant tous les eucalyptus qui sont plantés un peu partout dans la province, on va exposer la province à la sécheresse et à des érosions, ce qui est une mesure complètement insensée et ridicule et qui tranche avec la Constitution. Et c'est pour cela que le Parti Prenant condamne avec fermeté ces mesures qui sont illégales, injustes et contraires à la Constitution, parce que la Constitution est garantie à toute personne le droit à la propriété privée et interdit à quiconque de la lui ravir, sauf pour cause d'utilité publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine qui s'achève. Passez un bon week-end, à la prochaine.
Zamba.
Zambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.